Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, depuis le Festival de Géopolitique de Grenoble, nous retrouvons nos invités. Tania Rakhmanova, réalisatrice, auteure de La prise de pouvoir par Vladimir Poutine, un film qui a été présenté à Grenoble au cours de ce festival. Isabella Damiani, enseignante-chercheure en géographie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Jean-Marc Huissou, directeur du Centre d'études en géopolitique et gouvernance à Grenoble, École de Management. Et Henri de Grossouvre, fondateur et délégué général du think tank européen Forum Carolus. Tania Rakhmanova, je me tourne à nouveau vers vous. On a terminé la première partie de l'émission sur la notion d'absence de miroir du pouvoir en Russie. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ça veut dire que depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, assez rapidement, à vrai dire, il s'est réapproprié de toutes les chaînes de télévision nationales et bien sûr les chaînes régionales appartiennent au gouverneur. Donc maintenant, on n'a plus de télévision d'opposition. Ce qui veut dire que oui, l'opinion publique russe, les Russes ont un accès à l'information très limité ou à une information très choisie. Mais moi, j'ai l'impression que au Kremlin, pas que Poutine, mais il incarne le pouvoir russe, mais j'espère qu'il n'est quand même pas un dictateur. Il y a des gens autour de lui. Que eux non plus, ils n'ont pas d'informations sur la Russie. Ça, j'ai eu l'occasion de le vérifier sur une affaire de Gazprom et la production du pétrole en Arctique, parce qu'on ne produit rien. Gazprom ne produit rien, mais à la télé, ça a été annoncé qu'il produit. Et ben, au Kremlin, on pense que c'est vrai.
Henri Grossouvre.
Oui, sur la question du miroir, moi, je pense que c'est un point important. Mais il faut prendre un peu de recul. Comparons l'opinion publique et la rupture qu'il y a dans les pays occidentaux entre les soutiens à nos gouvernements occidentaux. Vous n'oubliez pas le taux d'abstention qu'il y a dans les pays européens, qui est croissant. C'est-à-dire que les élus des pays occidentaux, France en premier, sont élus par une minorité de la population. La rupture est beaucoup plus grande. Si vous prenez les partis contestataires, Front de gauche, Front national, pour faire simple, l'abstention, les non-inscrits, vous avez une majorité de la population. La rupture est totale, alors que si on prend le cas de la Russie, je pense que c'est un débat un peu stérile. Je pense que si on veut être un peu constructif, il faut qu'on essaye de trouver un peu des pistes. C'était aussi votre sujet. Vous aviez, je pense, très pertinemment intitulé le sujet « Comment aussi traiter avec Poutine, le nouvel homme fort ». Je peux lancer piste, si vous voulez.
Allez-y.
Et je pense qu'il y a une constante dans l'Union soviétique et aujourd'hui en Russie, c'est paradoxalement le respect du droit international, qui est quasi scrupuleux. Si vous prenez les délégués dans les organisations internationales russes, il y a une demande et un respect quasi scrupuleux du droit international. Et si on se met à la place de Poutine, je ne dis pas qu'il a raison, mais le cas du Kosovo n'est que la réponse du berger à la bergère. Vous autres occidentaux, vous ne respectez pas les règles du droit international. Vous déclarez, reconnaissez unilatéralement l'indépendance du Kosovo, parce que c'est dans l'intérêt des États-Unis, pas dans l'intérêt des Européens d'ailleurs. Donc, puisque nous sommes en dehors des règles, je ne vais pas les appliquer non plus. Et la Crimée, qui a toujours été russe, les Russes n'ont jamais quitté la Crimée. 75% de la flotte de la mer Noire est russe, comme vous le savez, depuis l'accord au lendemain de la chute du mur. Donc, les Russes, ils savaient très bien qu'il ne se passerait rien. Donc, voilà. Je pense qu'il faudrait établir de nouvelles règles. Les règles internationales qui sont nées de la Seconde Guerre mondiale, qui sont nées des années 90, ne sont plus valables. Et qu'il faudrait, avec les Chinois, qui comptent aujourd'hui, évidemment, avec l'Amérique latine, avec l'Afrique, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, se mettre autour de la table et établir de nouvelles règles que l'on serait capable de respecter. Et c'est, je pense, si on se met à la place du Kremlin, c'est une demande qui est faite.
Alors, c'est parce que les règles ne sont plus respectables qu'elles ne sont pas respectées. C'est ce que j'entends, Henri de Grossouvre, Jean-Marc Huissou.
Le grand délinquant par rapport au droit international depuis 1991, c'est Washington. Et je rejoins tout à fait ce que dit Henri Grossouvre sur la culture des relations internationales russes. Il y a deux choses qui sont très nettes dans la diplomatie russe et dans l'histoire des relations internationales russes. D'abord, les Russes considèrent que les relations internationales se font entre acteurs fondamentalement différents et pas entre homologues destinés à converger vers le même modèle politique, social, économique, de valeurs et ainsi de suite. Ils admettent la différence et les règles doivent permettre de gérer les rapports entre ces différences et c'est très fructueux comme approche. Hein. Et effectivement, ils sont extrêmement légalistes. Et vous parliez des Chinois. Les Chinois ont pris aussi aux Russes cette approche extrêmement légaliste du droit international. Ils savent très bien que le rapport de force ne peut mener qu'à des catastrophes et que la seule barrière au chaos et au bras de fer permanent, c'est effectivement le respect du droit international. Et ils prennent acte que les Américains, je ne veux pas taper spécifiquement sur les Américains là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ont, eux, une culture internationale plutôt opportuniste et très centrée sur ce qu'ils considèrent être leur intérêt stratégique national, qui est d'ailleurs une notion très extensive, n'ont pas respecté les règles du jeu qui avaient été convenues au départ, et je parle là uniquement des relations américano, enfin OTAN Moscou, au départ en 1986 à Reykjavik, où Gorbatchev avait dit nous allons lancer la perestroïka, nous allons lancer la glasnost, nous voulons votre aide dans la réforme du système politique, économique, social de l'URSS, et nous voulons en terminer avec la guerre froide et la confrontation, mais nous vous demandons de ne pas intervenir dans l'espace soviétique. Reconnaissons l'autodétermination des peuples d'Europe de l'Est, mais vous n'intervenez pas dans l'espace soviétique, dans les républiques soviétiques. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains dès 91? Ils ont commencé à envoyer des ONG, à envoyer des supports, à soutenir en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, leurs propres affidés, entre guillemets, à marcher sur ce que les Russes considéraient encore leur sphère de souveraineté, même s'ils reconnaissaient qu'ils n'avaient plus les moyens de la maintenir. Vladimir Poutine met la machine en arrière. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les caractéristiques de ce régime, il ne s'agit pas de dire c'est un méchant ou pas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et la question de quelles relations doit-on établir avec eux, les Européens doivent abandonner l'idée que les Russes doivent rentrer dans leur modalité idéaliste de relations internationales. Les Russes sont comme ça. Leur culture, leurs principes sont ceux-là. Ils sont beaucoup plus solides que ceux de l'Union européenne et de ses pays membres. Ils sont beaucoup plus fiables sur le long terme que l'improvisation un petit peu opportuniste de Washington. Ils fonctionnent comme ça, il faut faire avec. Et on ne peut pas ne pas avoir de relation avec eux. Donc autant partir du principe que c'est comme ça que ça marche.
Isabelle Adamini.
En tant que géographe, j'ai pensé notamment donc, aux frontières. Donc, on a un peu fixé des frontières à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire que les États-Unis sont un peu posés comme ceux qui décident des frontières, ceux qui décident et qui font respecter les frontières. Respectent et font respecter les frontières. Bon, au final, c'est un peu une forme de monde conservateur qu'on a créé. Donc, il ne faut pas bouger les frontières qui sont définis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je pense que c'est un peu ça qui est en train de bouleverser un peu tout le monde. Donc, Poutine, il a bougé des frontières, il a changé des frontières, de manière légitime, de manière pas légitime. Bon, après, c'est clair que le monde, la majeure partie du monde aujourd'hui est structurée autour du monde occidental. Donc, pour la majeure partie du monde occidental, c'est de manière illégitime. Mais justement, il faut voir l'autre côté de la médaille. Et donc, notamment, je pense que les cas du Kazakhstan, donc, comme prochain rendez-vous, c'est pas le seul, parce que voilà, je pense aussi au cas de la Transnistrie. Et là, qui ça va tout toucher de manière un peu plus directe l'Europe, parce qu'on est presque dans l'Union européenne, et il y a des accords très forts avec la Moldavie, et là, ça se fait aussi la différence entre les Kazakhstan, c'est-à-dire que la question de la Transnistrie est beaucoup plus proche que la question de la Crimée par rapport au nord du Kazakhstan. Dans le nord du Kazakhstan, on n'a pas un régionalisme qui veut se développer, un régionalisme indépendantiste qui veut se développer, chose qu'on a dans la Transnistrie, donc avec les soutiens de Moscou, et donc la Transnistrie qui cherche un peu ce soutien de Moscou, peut-être qu'il cherchera ses soutiens de Moscou et peut-être que Moscou va profiter de ça.
Henri Crousseau, après ça, je vais passer la parole.
Sur la question des frontières, juste une remarque brièvement avant de passer la parole au public. Chronologiquement, c'est quand même l'Allemagne et les États-Unis qui ont soutenu dans les Balkans, dans les années 90, l'éclatement des frontières et l'éclatement du pays. Un exemple, la Croatie, ça n'allait pas de soi. L'ex-Yougoslavie forgée par Tito fonctionnait malgré tout, beaucoup mieux que depuis les guerres fratricides, les massacres sont la conséquence de l'éclatement de ces frontières que nous avons laissé faire, voire soutenu.
Tania Rakhmanova, rapidement. Et...
Très rapide, je veux dire que pour une fois, l'Union européenne a fait une chose intelligente. Et vous savez qu'ils ont annoncé qu'ils abolissaient les visas pour les Moldaves. Et je pense que c'est pour peser sur la décision de la population de Transnistrie.
Une question dans la salle, puisque cette émission enregistrée à Grenoble était enregistrée en public. Monsieur.
Oui, Laurent Chamontin, écrivain. Peut-être une question pour Madame Damiani au sujet de la pression russe sur le nord du Kazakhstan, où il y a une minorité russe importante. Est-ce que vous ne pensez pas que le Kazakhstan a quand même une carte à jouer en faisant une balance entre la Russie et la Chine pour se protéger de cette éventuelle menace?
Isabella Demini.
Ouais, tout à fait. Bah, le Kazakhstan a des fortes relations avec la Chine, mais non seulement avec la Chine, mais aussi avec l'Union européenne. Donc, je pense que les Kazakhstan. Donc, l'enjeu, ça sera ça dans les prochains mois, dans les prochaines années, et c'est voir qu'est-ce que la Russie demandera au Kazakhstan à l'intérieur de l'Union asiatique. Demandera une fidélité, demandera d'arrêter ses relations avec la Chine, avec l'Union européenne. Et ce sera quoi la réaction du Kazakhstan? Le Kazakhstan respectera donc son envie d'indépendance, son indépendance économique, son indépendance identitaire, nationale, ou s'il décidera de tout donner pour retourner vers la Russie? Moi, je crois pas. Moi, je crois que quand même, le Kazakhstan, il a bien trouvé sa place. Il a trouvé sa place à l'intérieur de l'Eurasie, et notamment dans les relations donc avec la Chine, tout à fait d'accord, et avec aussi l'Union européenne, mais non en tant qu'Union européenne, en tant que relation bilatérale avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Italie, donc de manière bilatérale, assez, beaucoup plus importante. Voilà.
La seule chose que quand on dit la Russie, on veut dire Poutine, au Kazakhstan, c'est un peu plus fort. Le Kazakhstan, c'est Nazarbayev. Il est très âgé.
Mais il n'est pas le seul, hein. Il est aussi Karimov qui est en train de. Donc, oui. on va avoir des changements, voilà, on peut dire comme ça.
Une autre question, monsieur.
Bonjour. Serge Boyer, enseignant en classe préparatoire à Toulouse, au lycée Ozène. J'aurais une question sur le système de Poutine et ses appuis. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est issu d'un système, celui des services secrets. On sait qu'il s'est appuyé sur les élites économiques lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1999 et 2000. Donc, est-ce que ces appuis ont changé? Et est-ce qu'on peut imaginer une Russie sans Poutine ou après Poutine?
Henri Grossouf.
Une remarque préliminaire. On présente comme une situation exceptionnelle la collusion entre des intérêts économiques, les services de renseignement et la politique. Est-ce que c'est une spécificité russe? Je ne crois pas. N'oubliez pas que George Bush, avant d'être président des États-Unis, a été directeur adjoint de la CIA. N'oubliez pas que les va-et-vient entre le monde économique et le monde politique est beaucoup plus fréquent. Est tout à fait normal dans l'ordre des choses, il fait partie du système aux États-Unis. Et puis avec le monde anglo-saxon, il faut ajouter les liens entre les... qui est un lien ancien, hein, depuis les guerres de l'opium et l'instrumentalisation de la drogue, les liens anciens entre les mafias et la drogue, qui est une constante. Donc, premièrement, ça, je pense pas que ça soit du tout une spécificité russe. Je pense que c'est une spécificité du pouvoir, d'utiliser les instruments du pouvoir. Après, l'après-Poutine, je pense que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Pour le moment, c'est pas...
Alors, on n'y est pas encore, parce que globalement, il reste quand même un certain nombre d'années, Tania Rakhmanova.
Donc, c'est pas à l'heure du jour. Bien sûr, il y aura la Russie après-Poutine, qui est quand même pas éternel, mais pour le moment, il est assez jeune, et il a encore 4 ans de ce mandat. Il peut se présenter la deuxième fois, donc on a encore 10 ans.
Une autre question, monsieur ?
Étienne Dequy, je suis chef d'entreprise. Ma question est une interrogation relative aux intérêts de la France, je veux dire plus que de l'Union européenne, mais en tant que chef d'entreprise français, ma question est de savoir, d'abord de constater que, de mon point de vue, on a un intérêt à travailler avec la Russie, d'un point de vue économique, et les intérêts sont cruciaux. Ne prend-on pas le risque, d'abord pour la France, puis pour l'Union européenne ensuite, avec la politique que l'on mène et les guerres de la Russie aujourd'hui, de voir la Russie plutôt s'orienter vers le concept de l'Eurasie.
Jean-Marc Huissot.
Alors, par rapport aux équilibres économiques, je ne peux pas parler évidemment d'un point de vue entreprise, parce que vous êtes mieux placé que moi là pour connaître cette réalité-là au quotidien, mais d'un point de vue des grands équilibres économiques, le discours très convenu qu'on entend ici et là, c'est que la Russie tient l'Europe par le gaz et que l'Europe ne peut rien faire. Ce qu'on oublie, c'est que l'Europe tient la Russie par l'euro et que l'Europe, c'est le marché du gaz de la Russie et que la richesse de la Russie, c'est le fait que l'Europe achète du gaz russe. Donc l'interdépendance est très forte, elle n'est pas dans un seul sens et il n'y a pas que le gaz.
Il y a les aspects culturels aussi, si on veut élargir.
Voilà, il y a les transferts de technologies, il y a les investissements, évidemment, il y a toute une série de choses. Il y a la reconnaissance internationale, qui est une vraie valeur marchande. Avoir un pays dans lequel les institutions internationales n'ont pas confiance, que ce soit vrai ou simplement des préjugés induits par des facteurs politiques, n'a pas d'importance. L'important, c'est quelle évaluation on fait de la fiabilité d'un acteur au point de vue économique à un moment donné. Si la Russie voit son image se dégrader d'un point de vue politique, elle verra aussi son image se dégrader d'un point de vue économique, et donc avec des gros risques en termes d'investissement étrangers et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que l'alternative, c'est mon point de vue, ça reste toujours discutable bien entendu, mais l'alternative de développement économique de la Russie, l'alternative à l'Europe, c'est pas l'Asie centrale, c'est pas un marché suffisant, une économie suffisamment développée pour absorber les perspectives économiques de la Russie en majorité, c'est la Chine. les relations entre Pékin et Moscou sont encore plus compliquées que les relations entre Bruxelles et Moscou. Et là, le rapport de force, enfin, il semble n'être absolument pas en faveur de Moscou, ce qui fait que Moscou peut avoir quelques réticences à ouvrir les portes à la Chine pour essayer de rééquilibrer sa dépendance à l'Europe, même si évidemment ça fait partie de sa stratégie et qu'aujourd'hui on voit quand même des choses se passer pour essayer de rééquilibrer ses interdépendances économiques au profit de la Chine.
Pour résumer, parce que malheureusement le temps court, ce que moi j'entends de ce que vous avez dit les uns et les autres par rapport à cette problématique de la Russie, de l'Eurasie, de l'Union européenne, de la Chine, c'est que finalement une sorte d'alliance en tout cas entre la Russie et l'Union européenne sur la question eurasiatique vous paraît quelque chose de vital, ne serait-ce que pour l'Europe et pour l'assise de la Russie et son ancrage en Europe. Qui veut répondre, Henri Grosseau?
Oui, je pense que pour l'Union européenne, c'est la voie royale de sortie. Une Europe politique à l'Ouest, après l'élargissement, comme on a élargi avant d'approfondir, cette Europe politique ne peut se faire que sur un noyau dur de pays qui reste malgré tout le noyau carolingien, disons, de l'Europe des six de l'origine, le noyau franco-allemand, même s'il y a des hauts et des bas, cette base-là reste. Et de l'autre côté, la Russie a besoin de nous aussi. La Russie, c'est aussi la faiblesse de la Russie et de Vladimir Poutine. Enfin, une donnée en tout cas à prendre en compte, c'est que la Russie a besoin de nous. A besoin de débouchés, a besoin d'un partenariat. Et il est quand même plus facile d'établir des partenariats sur un même continent. Tout est à construire, du point de vue des chemins de fer, des transports. Il y a un potentiel à la fois économique, social, humain, gigantesque.
Tania Rakhmanova.
Je suis tout à fait d'accord que la Russie ne peut pas exister sans l'Europe. Elle n'a jamais existé, historiquement, n'a jamais existé sans l'Europe. Et c'est vrai que c'est des relations dans les deux sens. En plus, en Russie, quand même, culturellement, on a beaucoup plus l'habitude de travailler avec les Européens qu'avec les Chinois, même si on a une frontière en commun, etc. Une autre chose, c'est vrai que vu de la Russie, pour des raisons bien définies, et l'Europe n'existe pas vraiment. La Russie préfère peut-être traiter avec pays par pays. Et il y a une autre chose qui est assez importante. La Russie, c'est un pays proche de l'Europe, mais ce n'est pas l'Europe. Donc il ne faut pas imaginer qu'on peut utiliser les mêmes règles, les mêmes stratégies en Russie qu'on utilise en Europe. Et je sais qu'assez souvent, les entrepreneurs qui viennent en Russie, ils essaient, parce que ça paraît pareil, utiliser les mêmes règles, ça ne marche pas, elles sont dessus, ils partent. Non, la Russie, c'est une autre chose.
Isabelle Adamini.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas encore parler d'Europe par rapport à la Russie. Donc, chacun a ses intérêts. Et si on voit déjà l'idée d'arrêter les G8 et passer au G7, déjà l'Italie et l'Allemagne, ils ont dit, bon, attendez, nous, on a quand même des intérêts beaucoup plus importants. On ne peut pas quand même se mettre contre la Russie comme ça. Donc, on a encore des intérêts bilatéraux encore très forts. Et l'Europe politique, déjà l'Europe économique face à la Russie, c'est encore un peu particulier, voilà.
Jean-Marc Huissou, très rapidement.
Oui, alors très rapidement, on peut et on a intérêt à développer ce partenariat, mais je reprends l'image du miroir de tout à l'heure, et je vais tout à fait dans votre sens. On ne pourra travailler efficacement avec la Russie que si on part du principe qu'elle est autre, et que cette autre va nous permettre de nous définir, et en même temps va permettre à la Russie de se définir. Il faut arrêter de dire on ne peut pas travailler avec la Russie parce qu'elle est différente de nous sur tel point, sur tel point, sur tel point. La différence fait la richesse, fait les échanges, fait la réalité aussi. Et de ce point de vue-là, les Russes ont beaucoup d'un peu de leçons à nous donner parce qu'ils sont beaucoup plus réalistes que nous sur ce que sont réellement les relations internationales, économiques ou politiques.
Merci. C'est la fin de Géopolitique depuis le Festival Géopolitique de Grenoble. Merci à nos invités. Tania Rakhmanova, réalisatrice, auteure de nombreux films dont La prise de pouvoir par Vladimir Poutine, présentée dans le cadre de ce festival. Isabella Damiani, enseignante-chercheure en géographie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et auteure de Géopolitique de l'Asie centrale entre Europe et Chine, le cœur de l'Eurasie, aux presses universitaires de France. Jean-Marc Huissou, directeur du Centre d'études en géopolitique et gouvernance à Grenoble, l'école de management, et Henri de Grosseouvre, fondateur et délégué général du think tank européen Forum Carolus et président de l'association Paris-Berlin-Moscou. Pour aller plus loin sur ce thème de la Russie, je signale deux ouvrages, Géopolitique de la Russie, le nouvel empire d'Eurasie par Pascal Marchand aux presses universitaires de France, également le dernier ouvrage de Vladimir Fedorovski, Poutine, l'itinéraire secret, aux éditions du Rocher, Géopolitique est signé Marie-France Chatin et Manu Potcher à Grenoble. Nathalie Laporte à Paris. Samedi prochain, Géopolitique reviendra sur la conférence nationale humanitaire qui s'est tenue récemment à Paris et les questions qui se posent à l'action humanitaire aujourd'hui. À la semaine prochaine.